France Musique.
Très belle journée à vous, Karine Le Bay. On vous retrouve dimanche prochain.
France Musique.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous prenons tout de suite la route pour le Grand-Duché de Luxembourg. C'est un nouveau numéro de l'Air des Lieux dans l'une des très belles salles de concert en Europe. Elle fête cette année le 10e anniversaire de son inauguration.
Oh, what an elegant room!
Well, it's not Buckingham Palace, but it's Wilson's little castle.
Mesdames, messieurs, dans quelques minutes, nous arriverons en gare de Luxembourg, le terminus de ce train.
Ce que moi j'aime, que la salle a vraiment bien âgé. Il y a beaucoup de salles après 10 ans où on voit vraiment les 10 ans. Ici, on a un peu le sentiment que le bâtiment est tout à fait nouveau. Ce n'est pas parce qu'on ne fait rien, mais parce qu'on fait 400 concerts par an. C'est bien utilisé et quand même, ça donne un air, un esprit. Oui.
Oui, salut, c'est la philharmonie. Merci.
Je peux le faire encore une fois, si vous voulez. L'Air des Lieux à la Philharmonie Luxembourg sur France Musique jusqu'à 17h.
Il y a 10 ans, au mois de juin 2005, la Philharmonie de Luxembourg ouvrait ses portes au public. Nous sommes ici sur le plateau de Kirchberg, dans le nord-est de la ville de Luxembourg. Le quartier est connu pour avoir accueilli dès les années 60 le siège de quelques institutions européennes importantes. Il s'est fait aussi une réputation dans les années plus récentes pour des bâtiments dont le geste architectural marque les esprits. C'est le cas du MUDAM, un musée d'art moderne que l'on doit au sino-américain Pei, le même qui avait imaginé la pyramide du Louvre, et c'est le cas de l'une des plus belles salles de concert contemporaines. Son architecte est français, Christian de Porzamparc a signé avec la Philharmonie de Luxembourg l'une de ses grandes réussites. À l'extérieur, 823 colonnes en acier blanc que l'on traverse pour découvrir un immense espace baigné de lumière, et à l'intérieur, un grand auditorium où tous les grands orchestres font désormais régulièrement escale. Et la salle est aussi bien sûr la résidence de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, dont Emmanuel Krivine tient les rênes depuis bientôt 10 ans. À la manière du grand chef et du capitaine qu'il sait être, il pourra passer la barre du navire dans quelques semaines avec le sentiment du devoir accompli. Bienvenue. Stéphane Gamarreur, vous êtes le directeur général de la Philharmonie Luxembourg, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein. Je ne mets pas le 2 entre Philharmonie et Luxembourg, on dit Philharmonie et Luxembourg. C'est avec vous qu'on ouvre ce nouveau...
Comme nous, on n'a qu'une Philharmonie, c'est la Philharmonie ici.
Alors, c'est avec vous qu'on ouvre ce nouveau numéro de l'Air des Lieux pour France Musique et sur France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Vous allez être notre guide, puisque c'est avec vous que l'on va découvrir ce bâtiment édifié il y a 10 ans d'ailleurs, tout juste, hein, par un architecte français. Lui, c'est Christian de Porzamparc. Vous l'avez découvert quand, cette salle, Stéphane Gamarreur, avant d'en devenir le directeur général à présent?
Oui, moi je suis arrivé, ça fait 2 ans presque maintenant. Alors, 8 ans après l'ouverture, c'était jusqu'au moment que la Philharmonie a été fusionnée avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Alors, comme maintenant, on est quand même 2, on est un orchestre et une philharmonie, mais une institution qui travaille ensemble et qui gère les bâtiments aussi.
Alors, ici où vous nous accueillez à la Philharmonie Luxembourg, Stéphane Gamarreur, nous sommes, on s'est réfugié un peu à l'intérieur pour dire vrai, parce qu'il y a beaucoup de vent à l'extérieur de la salle pour se parler, pour se décrire cet édifice magnifique. Je serais tenté de dire que c'est peut-être l'une des plus grandes réussites de Christian de Porzamparc. Vous seriez d'accord avec
oui,
ça?
Oui, nous on dirait absolument oui, mais il y a peut-être des autres qui contestent.
On peut rappeler qu'il est l'architecte également de la Cité de la Musique à Paris. Hein. Oui. Alors, nous sommes dans le foyer ici de cette Philharmonie. Je vais vous laisser nous décrire, si vous le voulez bien, ce qui fait l'identité, la singularité de cette salle et de son architecture. Ce sont ces colonnes. Oui. Combien de colonnes d'ailleurs?
Plus de 800, exactement, je crois, 823. Vous savez? Ok, moi je ne sais pas.
Peut-être. Plus de 800, assurément.
L'idée de Porzamparc était, oui, c'est l'histoire, qu'il voulait toujours faire un salle de concert dans un forêt, mais il savait qu'il ne va jamais réussir de faire ça. Alors, il a décidé de faire son forêt, de construire son forêt avec les colonnes qui sont arrangées en 3 parties. Alors, extérieur, au milieu et intérieur. Et sauf la partie intérieure, alors les extérieurs et les autres sont l'une pour les fenêtres et l'autre pour décoration. Peut-être il faut en parler un peu de l'histoire. Quand le Luxembourg était capitale culturelle en 95, c'était à cette époque que le Premier ministre et Madame la ministre de la Culture, Erna Enikoschep-Schess, il faut vraiment la mentionner parce que cette dame était vraiment derrière le projet. Et à cette époque, elle voulait construire une salle. Et ici à Luxembourg, tout le monde a dit « Mais pourquoi on a un petit festival, on n'a pas de public, on n'a rien ?» Et elle était vraiment convaincue que si on va construire une salle, ça va tirer un public. Et ça s'est passé.
Une salle pour un orchestre, parce qu'en même temps qu'on fait l'histoire rapide de la construction de cette philharmonie, Stéphane Gamarreur, il faut faire aussi une histoire de son orchestre. C'était aussi donner un nouvel écrin à l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg en 2005.
Oui, les deux, en fait, les deux. Mais aussi, c'était pour l'orchestre, mais aussi, dès le début, l'idée d'inviter des grands orchestres, des grands artistes du monde.
Oui, j'ai vu des affiches un peu en venant de la gare, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, notamment, qui vient dans quelques jours, ici.
Oui. Tout d'abord, on a le Beethoven, un autre regard sur Beethoven, avec toutes les symphonies de Beethoven, avec le Concertgebouw Orchestra, au mois d'avril, et après ça continue avec Philharmonique de Vienne, avec Philadelphia, tous, oui. Tous les grands sont là.
Ouais. Tout en marchant et en découvrant cette philharmonie, j'aimerais bien qu'on parle un peu de vous, mais de votre parcours justement. Comment devient-on directeur général d'une institution comme celle-ci, la Philharmonie Luxembourg? Quel a été votre parcours jusqu'ici?
Oui, mon parcours en 2 mois, j'ai commencé au Festival de Salzbourg, après mes études de droit. Là, j'ai travaillé sur la planification des concerts au festival pendant les années 90, avec Gérard Mortier, qui est connu à Paris même. Et après, je suis allé à Berlin, dès le début, de travailler avec Simon Rettel, tout d'abord comme son assistant et après comme chef de planning de l'orchestre pendant 7 ans. Et après, je suis allé à Munich pour travailler au Radio Bavarois et mener l'orchestre symphonique du Radio Bavarois.
Petite ville de Luxembourg, comment on s'y sent d'ailleurs?
Moi, j'ai rien dit. grande ville de Luxembourg.
Mais dans cette ville de Luxembourg, Stéphane Gamard, justement, comment on s'y sent quand on vient y travailler, s'y installer après avoir vécu des années, notamment à Munich et notamment à Berlin? Mm-hmm. Comment on prend le pouls de cette ville? Comment on s'y sent au début?
Oui, Luxembourg est une ville assez internationale, ça il faut savoir dès le début. Je crois à Luxembourg même, il y a 60 ou 65% des étrangers, bien sûr des personnes qui travaillent aux banques, des personnes qui travaillent à l'Union européenne. Alors ça c'est intéressant aussi pour la programmation, parce que on voit très bien dans la programmation, si par exemple si on a un orchestre anglais, on a plus d'anglais que si on a un orchestre allemand et tout ça. Et aussi dans la programmation jazz et world, on peut vraiment jouer avec les différents publics, avec les différentes nationalités à Luxembourg.
L'électronique ici. On a une autre vue d'ici.
Alors c'est vrai qu'on a une autre vue d'ici, de la Philharmonie de Luxembourg. Maurice Clément, on est avec vous ici, on a grimpé jusqu'à l'orgue. Vous êtes l'organiste titulaire de cette salle ici depuis son inauguration, on peut dire, depuis 2005. Disons. Point de vue justement que vous avez vous ici à votre instrument, est-ce que vous pourriez nous le décrire un peu justement, la salle que vous voyez telle que vous la décririez?
La salle est un peu, c'est un peu comme un théâtre shakespearien avec une place, comme on pourrait dire, l'italienne au milieu et des tours latéraux qui fonctionnent comme les loges en fait. Donc on a comme des petits appartements, des petites maisons qui entoure la scène, et l'orgue en fait est conçu de la même manière. Donc on voit aussi des tours où les tuyaux sont posés. Donc l'orgue se compose quatre tourelles, comme ça, avec une tourelle centrale au milieu, et qui poursuit donc le même schéma d'architecture, donc conçu par Christian de Pozenpark, qui a aussi réalisé le buffet de l'Orque, la façade de l'Orque. Aussi les mêmes teintures, les mêmes couleurs, ce rouge avec balayé avec du bleu comme ça, qui voilà. Donc l'orgue, en fait, il est en face du public, donc mais il reste quand même discret, mais il donne un peu son cachet à la salle. On reconnaît cette salle par l'orgue, en fait. Quand on voit les photos, c'est surtout, je crois que par l'orgue, qu'on reconnaît, ah, c'est la salle de Philharmonique de Luxembourg. Alors que quand même, cet orgue, comme il joue quand même pas tout le temps, il doit quand même rester discret, mais donner un cachet très, très fort. Donc vous savez qu'un orgue est toujours... chaque orgue a son style particulier, son style de nationalité ou d'époque. Et voilà, on a essayé de construire un orgue contemporain, mais où le grand répertoire symphonique ou romantique se plaît très bien.
Ça veut dire que celui-ci d'ailleurs a été fabriqué où ?
Il a été fabriqué à Berlin, ouest, donc c'est une firme de grande tradition, Karl Schuck, donc ils l'ont fabriqué pour 2005, donc l'année de l'inauguration de la Philharmonie. D'ailleurs, dans la façade, on voit caché l'année de la Philharmonie, on voit 2005, si on fait bien attention.
Juste
au-dessus de nous, bon, on ne le voit pas d'ici, oui. Mais on le voit de la salle, en lettres digitales. Il faut le savoir pour le voir, mais si on le sait une fois, on le voit tout de suite. Donc en lettres digitales, il y a marqué 2005.
Alors après, il faut le faire jouer, apprivoiser l'acoustique d'une salle, en faire son propre instrument. Ça, c'est un travail qui s'accomplit avec les années. Vous avez évolué d'une certaine façon. Comment, depuis maintenant 10 ans que cette salle a été inaugurée et que vous en êtes ici l'organiste titulaire, Maurice Clément ?
Personnellement, j'ai évolué en ce sens que c'est quand même, en tant qu'organiste, c'est assez rare de pouvoir jouer sur une scène. Donc ça change quand même la conception, je dirais même artistique, d'être en face du public, avec le public, pas caché sur un jubé, derrière un orgue. Aussi jouer dans une acoustique qui est une acoustique de salle, pas d'église, il y a ses avantages et évidemment aussi ses désavantages. Donc le grand avantage, c'est que c'est d'une clarté énorme, c'est très transparent comme son, et on a des sonorités très très douces qui marchent très bien dans cette salle avec une grande limpidité. Le désavantage, c'est que pour qu'un orgue sonne vraiment bien, on a besoin, je dirais, à partir de 4 secondes de réverbération. Ici, on est à 2,1 ou 2, selon les voiles qu'on peut bouger, en l'occurrence. Donc, on n'a pas vraiment cette sensation de ventre qu'on a dans une cathédrale. Alors que l'orgue, en soi, il est très puissant, mais le volume à remplir est tout simplement énorme. Mais bon, ça change. Pour une fois, alors un orgue est vraiment transparent, on entend tout. On ne peut pas se cacher derrière une réverbération, et oui... Et l'affrontement au public, l'affrontement sur scène, ça change quand même beaucoup.
Alors on a décrit un peu son buffet. Bien que vous nous décriviez l'instrument lui-même, que vous nous disiez au fond, c'est, bon, sans entrer dans toute la technique extrêmement précise, mais en fait ses qualités, ce qui en fait sa singularité, cet orgue de la Philharmonie de Luxembourg.
Comme j'ai dit, il y a plusieurs styles qui sont entrés dans cette conception, dans cette disposition. Comme Luxembourg se trouve entre deux grandes cultures, l'Allemagne et la France, on trouve d'ailleurs qu'ils font aussi un peu notre identité, c'est cet entre deux cultures, ces deux influences sont entrées dans cet instrument. On a donc on a quatre claviers, 6783 tuyaux et 83 jeux en tout, évidemment un pédalier. Qui sont disposés sur un grand orgue assez classique, assez symphonique. Un positif qui a vraiment une couleur d'Allemagne du 19e. avec un Liebliche Gedacht, une vol de gombe, un Fugara ou une éoline 16, que Liszt évoque plusieurs fois, une Harmonia Etheria, un English Horn. Ce sont des jeux qu'on trouve dans les orques Valka ou Zawa du 19e siècle. Et puis un troisième clavier, un récit vraiment complètement français, avec toute une batterie d'anches du 16 pieds au clairon. Et un grand chœur en quatrième clavier, inspiré un peu d'Angleterre aussi, parce qu'en fait, les orgues de concert nous viennent de l'Angleterre, cette tradition du 19e de construire des orgues dans les town halls, un peu partout dans l'Empire britannique, qui avait au début aussi une fonction, comment dire, c'était un peu l'orchestre pour les pauvres. Souvent, on jouait le répertoire du concert qui était joué le samedi soir. Le lendemain, il était joué à l'orgue pour des prix beaucoup plus bas, des symphonies de Beethoven. Donc aussi, cette tradition de transcription d'œuvres nous vient d'Angleterre. Et ils ont donc ce quatrième clavier à une pression de vent plus haute. Donc ce sont des jeux plus solistes, un tuba, une clarinette, une concertflûte. Et puis, bon, évidemment, des trompettes en chamade, un large pédalier aussi. Et puis, une chose qui est un peu spéciale, que moi, en fait, j'aime beaucoup parce que j'aime aussi bien improviser et un peu expérimenter avec les sonorités, c'est ce vent modulable qu'on a. Donc, on a un réducteur de vent qui nous permet de réduire ou de monter la pression du vent selon ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que les tuyaux ne vont plus parler correctement, comme il faut, mais on va entendre toutes sortes d'harmoniques. Ligeti demande ses sonorités dans ses œuvres et c'est une musique un peu spectrale que moi j'aime beaucoup. Et donc il y a trois claviers où sur les trois claviers on peut régler donc ce vent.
Des lieux, nous sommes ensemble jusqu'à 17h et à l'instant c'est Maurice Clément que l'on entendait officier à l'orgue du Grand Auditorium de la Philharmonie de Luxembourg dont il est le titulaire, vous l'avez entendu, depuis l'année 2007 précisément.
France Musique.
Emmanuel Krivine, nous sommes ici dans cette salle de la Philharmonie Luxembourg. Figurez-vous que moi je la découvre cette salle, c'est la toute première fois que j'y viens. Vous êtes évidemment un endroit que vous connaissez bien, vous êtes le directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg. Vous répétiez ce matin avec cet orchestre et vous enregistrez aussi un disque. Et d'ailleurs c'est un programme qui est assez original, vous allez m'en parler dans quelques instants. J'aimerais bien que vous décriviez un peu cette salle qui elle-même d'ailleurs elle est extrêmement originale, je trouve.
Oui, oui, c'est une salle très réussie. Je l'ai connue en 2005. Donc, j'étais très, très, comment dire, très surpris en, comment dire, en Suisse, déçu en bien. J'étais très, très heureusement surpris par la merveille qu'ils avaient réalisée. À telle enseigne que j'ai fait venir à la fin du concert, sur scène, saluer l'acousticien et l'architecte comme si c'était des solistes du concert. Je les ai fait venir à la fin devant pour saluer le public, c'est-à-dire Xu et Porzampa. C'est une salle extrêmement, comme on dit à Bruxelles, atmosphéreuse. Elle engendre de la très belle musique. Et c'est grâce à cette salle que cet orchestre a pu s'épanouir, alors qu'avant il était dans un truc dont je vous parlerai même pas, qui s'appelait la Villa Louvigny. C'était un truc infâme. C'est un truc charmant qui est dans un parc, c'est très joli, c'est une vieille maison, tout va bien, sauf que c'est pas fait pour sonner. Et donc l'orchestre s'entendait pas, c'était infernal et on n'arrive jamais à jouer ensemble. Enfin bref, c'est grâce à cette salle, depuis 10 ans donc, que l'orchestre a pu s'épanouir, se réaliser, éclore. Donc j'ai une reconnaissance éternelle et illimitée pour cette salle. Moi, j'adore cette salle, voilà.
Ça forge un son particulier. Je posais la question au directeur de la Philharmonie, ici, Luxembourg, mais au fond, comment il entendait cet orchestre luxembourgeois, me disait-il, mais plutôt français, plutôt allemand. Comment vous le définiriez, vous, cet orchestre dont vous êtes le directeur musical, Emmanuel Krivine?
Oh, c'est un orchestre qui n'a pas de caractère spécialement allemand ou français. D'ailleurs, vous savez, de nos jours, c'est difficile de définir les caractères des orchestres, puisque nous sommes dans une uniformisation, une mondialisation générale du son. Nous sommes dans le grand synthétiseur universel, sauf certaines maisons qui ont une typicité. C'est un peu comme les vins et les cigares, ça, tout se ressemble. Donc maintenant se perd la personnalité des orchestres, c'est vrai, sauf des boîtes très originales du genre Boston Symphony ou des maisons comme ça qui ont un caractère. Et cet orchestre est très intéressant parce que d'abord ils adorent la musique, ce qui est pas toujours le cas. Ils adorent la musique, ils sont 21 au moins de nationalités, beaucoup de nationalités, ils s'entendent très bien, c'est une ambiance familial, j'ai jamais à dire silence, rien, enfin c'est très agréable, c'est un peu comme un orchestre américain, c'est-à-dire vous faites votre musique, vous n'êtes pas là pour faire régner rien, le calme ou quoi que ce soit, la discipline. Et ça a été un orchestre qui a longtemps, autre du temps de RTL, joué de la musique française, mais depuis, comme ils ont eu Hager, ils ont eu David Chalon, un très bon chef, ces gars-là, et moi personnellement depuis 2006, donc j'ai fait les répertoires les plus éclectiques possibles. J'ai fait de Blabalach Gershon jusqu'à la 9e Bruckner il y a un mois. Enfin, du Holliger et on a enregistré les Bartok qui vont sortir. Donc c'est un orchestre. Je dis vraiment qu'il aime la musique. Ce que j'appelle, ça peut surprendre, un orchestre qui aime la musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas blasés et qu'il y a un respect de la chose musicale. Et ça, c'est très précieux.
Alors justement, vous parlez un peu répertoire et de toutes les choses que vous avez faites avec eux depuis bientôt 10 ans. Emmanuel Krivine, à la tête de cet orchestre philharmonique de Luxembourg. Nous, on se rencontre un jour de répétition et d'enregistrement d'un disque. Et le répertoire que vous avez choisi, le couplage d'ailleurs des œuvres que vous avez choisies, il est assez rare. J'aimerais bien que vous m'en parliez un peu.
Ce sont des œuvres que j'affectionne beaucoup et c'est mon dernier disque avec eux. Et là, c'est un disque un peu en dehors, comment dire, avec deux œuvres que j'aime beaucoup. Moi, je m'occupe de la Seejungfrau, la petite sirène de Zemlinsky, de Andersen également. Je m'en occupe depuis des années. Et donc, quant à Till Eulenspiegel, ça c'est une merveille. Moi, je m'identifie beaucoup avec plein de choses de cette œuvre. Et Et je l'ai beaucoup, évidemment, donné, puisque mon professeur était assistant de Richard Strauss. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est un langage d'une époque à peu près commune, mais complètement différent. Et ce qui est intéressant chez Tzemlinsky, c'est son côté épigonal et aussi sa fragilité à fleur de peau. J'ai lu l'autre soir quelque chose que j'ignorais, qui est un texte de Adorno dans Quasi come una fantasia, una fantasia, son bouquin, un grand chapitre sur Adorno, très intéressant. Et je recommande aussi la lecture de Harry Albrecht, qui connaît bien Tzemlinsky, et on en a parlé souvent ensemble.
Les rênes d'un orchestre comme celui-ci, c'est le travail qu'on va faire avec ces musiciens, tout autant d'ailleurs que la salle qui s'apprête à l'accueillir, puisqu'en 2005, la salle s'apprêtait à l'accueillir et était inaugurée, vous nous le rappeliez, qui convainc justement de prendre cette fonction-là, ce poste de directeur musical d'un orchestre comme Luxembourg, la salle et l'orchestre, les
deux
ensemble.
Oui, non, mais moi, quand j'étais nommé à cet orchestre, il n'était pas prévu dans cette salle encore, je crois. Et justement, c'était une... Si, il était peut-être prévu dans la salle, je me souviens pas. Mais il n'y avait pas ce qu'on a pu réaliser au bout d'années d'efforts, c'est une fusion. Ça s'est fait il y a 2 ans, et ça j'y ai concouru plus que partiellement, pour qu'il y ait une vraie homogénéité de ce qu'on appelle maintenant d'un mot très malarméen, la gouvernance. Et alors donc, maintenant c'est un tout, et on économise beaucoup l'énergie par rapport aux salles où il y a 2 directions. Donc c'est très intéressant d'avoir la direction de cette salle qui est en même temps la direction de l'orchestre. Ça, c'est formidable comme synergie. Et il est évident que cet orchestre, s'il n'avait pas eu l'occasion de jouer dans cette salle, n'aurait pas pu devenir ce qu'il est. Cette salle a permis en permanence une écoute exigeante, la réponse du son, quand quelqu'un joue un son, le second son, celui qui arrivera après, est fonction de ce qu'il aura entendu du premier son qu'il a émis. Donc c'est ce fameux retour de son qui a permis que cet orchestre soit maintenant une personnalité collective au sens où les Germains l'entendent. Enfin, ils n'en font pas toujours bon usage, mais en musique, ils en font très bon usage.
Et votre métier à vous, Emmanuel Krivine, de chef et de... je savais que vous alliez répondre ça, et de directeur musical quand même, mais au fond, il... Et non plus ? Alors, dites-moi.
Oui, je trouve que la direction d'orchestre n'est pas un métier, et j'ajouterais heureusement. C'est une fonction, on est là, on est une sage-femme qui aide à ce que le bébé arrive. Le bébé, c'est la musique. Donc on est là un révélateur. Donc c'est pas un métier dans le sens où vous pouvez ne pas bouger, ne rien faire ou avoir des bras nuls ou mettre sourd comme un pot et qu'un orchestre ça marche. Parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas très bien, il y a des chefs qui n'ont pas une oreille extraordinaire mais qui ont une présence qui fait qu'un son se passe. Ou t'as des orchestres, des chefs par exemple qui sont pas plus musiciens que mes fesses ou même moins. Ça peut arriver qu'ils le soient moins que mes fesses, qu'est-ce qui reste à prouver. Et que ça marche quand même. Pourquoi? Parce que par exemple ils terrorisent tout le monde et qu'il y a des gens qui aiment ça, d'autres pas. Bon, tu peux avoir aussi une oreille, un chef à oreille mais pas de bras. Et c'est son oreille qui fait que tu peux avoir un gars qui désire entendre quelque chose, mais qui sait pas comment l'exprimer, ni avec ses oreilles, ni avec ses bras, ni avec son corps, rien. Mais comme il a envie de l'entendre, le fait qu'il soit là, ben, il l'entend. parce que les gens ressentent dans les ondes qu'il émet qu'il a envie d'entendre ça. T'as aussi des batteurs, des types qui battent très clairement mais qui font pas de musique. Donc si tu veux, c'est
en quatre catégories, vous, alors,
moi j'ai envie d'entendre quelque chose. Donc je suis là pour faire écouter. Je suis quelqu'un qui suscite l'écoute et qui se greffe dessus. Donc c'est en ça que je dis que c'est pas un métier. Quand je disais c'est pas un métier, c'est parce que c'est pas tangible. Là où se situe le professionnalisme d'un chef n'est jamais tangible. Regardez Karajan, regardez bien ses vidéos, vous vous demanderez qu'est-ce qu'il fabrique. Ben, il fabrique rien, simplement il a envie d'entendre quelque chose et il le sent, c'est tout. Simple. Thank you.
L'air des lieux à la Philharmonie Luxembourg sur France Musique jusqu'à 17h.
C'était un nouvel extrait de Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Emmanuel Krivine dirigeait l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Voici une formation dont les origines remontent à 1933, un premier concert donné à l'époque au Casino de Luxembourg. Jusqu'au milieu des années 1990, l'histoire de cet orchestre a été intimement liée à celle de RTL, Radio Luxembourg, la radio musicale luxembourgeoise. Philippe Koch est le premier violon de l'orchestre, c'est le descendant d'une grande famille, une grande lignée de musiciens.
Le nom tel qu'il est écrit, K-O-C-H, se dit en France Koch, en Allemagne Koch, évidemment. Et en fait, je suis belge et je m'appelle Koch. Mais donc, ça ne cause pas de problème.
Donc, dans votre famille, on dit la famille Koch.
Moi, j'ai une famille de musiciens. Je suis la troisième génération et, et mes enfants la quatrième. Donc, je veux dire, c'est Koch depuis très longtemps. Je n'y suis pour rien.
Alors, justement, famille de musiciens, Philippe Koch, vous êtes le premier violon, le concertmeister de l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg, mais grande famille de musiciens. J'ai envie qu'on en parle un peu avant qu'on évoque votre travail au sein de cet orchestre avec Emmanuel Krivine, votre directeur musical, mais vos origines, vous baignez dans la musique depuis que vous êtes tout petit. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ça?
Bien sûr, mais écoutez, je n'y suis pour rien, évidemment, hein, puisque ce n'est pas moi le premier. Donc, il y avait mon grand-père, Henri Koch, concertmeister à l'Orchestre Philharmonique de Liège, professeur de la reine Elisabeth pendant la guerre, etc. Donc, une personnalité, en fait, tout à fait réputée, quelqu'un, un grand violoniste. Il y a des disques, il y a pas mal de choses. Puis son fils, mon oncle Emmanuel. Maman était une élève du grand-père, c'est comme ça qu'elle a rencontré papa, qui n'est que pianiste, c'est déjà pas mal. Donc lui, il est pianiste. Puis alors, bon, il y a moi, et puis alors après, il y a ma fille qui est déjà professeure de violon ici au conservatoire, et mon fils qui est chargé de cours de piano ici au conservatoire. Donc vous voyez, ça fait déjà 4 générations de Koch, ça commence à être beaucoup.
Vous êtes musicien et violoniste au sein de cet orchestre depuis combien de temps, Philippe Koch? Et au fond, quel était cet orchestre quand vous y êtes entré, à la fois sa tradition, sa réputation, le répertoire qu'il jouait, les chefs qui s'étaient succédés à son pupitre avant que Emmanuel Krivine n'en devienne le directeur musical il y a une petite dizaine d'années maintenant?
En fait, c'était l'orchestre de RTL, donc c'était un orchestre de radio-télévision. Donc nous faisions beaucoup de radio, beaucoup de télévision. Nous faisions même des concerts. D'abord le son, puis l'image, donc en playback. Donc ça, c'était une technique qu'on n'emploie plus du tout maintenant, mais c'est amusant. Hein. Ouais, écoutez, on enregistrait le son, on faisait quelque chose de correct, avec quelques prises, quelques corrections, bien sûr. Et puis après, si ça se trouvait 6 mois plus tard, on refaisait le morceau. Donc on faisait passer la bande, et nous... En playback, nous faisons semblant. Enfin, semblant, ce n'est pas vraisemblant, mais en fait, on nous entendait plus. Et on entendait, ce que je vous assure, ce n'est pas toujours facile. Hein. Moi, je me souviens avoir enregistré ici le concerto de Mendelssohn. Je l'avais fait 6 mois avant. Et puis, je devais, en fait, jouer avec moi. Mais ce n'est pas facile de jouer même avec soi-même. Et bon, c'est un orchestre radio, télévision. Beaucoup de radio, beaucoup de télévision, effectivement. Plus petit, mais déjà de très bonne qualité, déjà avec pas mal de nationalités, un examen d'entrée somme toute déjà très difficile. Bien sûr, maintenant, il y a de plus en plus beaucoup plus de candidats encore, donc la sélection est encore peut-être plus difficile. Mais ça a toujours été un orchestre valable, mais je pense qu'on a quand même bien évolué.
Le travail de l'orchestre, il a à la fois beaucoup changé et beaucoup profité de cette nouvelle salle dans laquelle on se rencontre, la Philharmonie de Luxembourg, dans laquelle vous êtes en résidence depuis 10 années maintenant, Philippe Koch.
Oui, en fait, c'est une salle qui a été construite au départ pour nous. Alors, au tout début, on en faisait partie, mais nous étions locataires et on ne faisait pas vraiment partie de la Philharmonie. Et maintenant à peu près 3 ans, nous faisons partie de la Philharmonie, ce qui est évidemment très bien pour l'avenir de l'orchestre, pour les très jeunes, etc. Et d'avoir la chance de travailler, parce que c'est en même temps notre salle de travail, de répétition et de concert, bon, quand on ne se déplace pas, mais enfin, c'est une salle. Avoir la chance de travailler dans cette salle, c'est évidemment magnifique. Vous avez entendu l'acoustique, vous voyez le lieu, vous connaissez l'architecte, et vous voyez qu'on n'a pas bradé, c'est quand même une magnifique salle.
Ça, c'est justement très intéressant quand un orchestre comme ça se déplace, va jouer hors les murs, c'est-à-dire en dehors de sa résidence habituelle. Mais comment justement vous vous entendez peut-être d'une façon différente lorsque vous allez jouer dans une autre salle? Vous évoquez la Philharmonie, il y a beaucoup d'autres salles dans lesquelles évidemment vous allez faire des tournées, et pas des moindres, hein, dans toutes les grandes salles, je pense à Vienne en particulier. Le son de cet orchestre, comment vous l'entendez ici et ailleurs?
Écoutez, en fait, nous devons nous habituer très vite. On a en général une répétition, voire un raccord, qui peut durer quelquefois seulement une demi-heure. Donc, mais en une demi-heure, bon, c'est un peu le travail du chef d'orchestre aussi, mais le nôtre, bien sûr, également, d'un petit peu nous positionner dans l'espace, si j'ose dire, en tenant compte de l'écho, de la réverbération, etc., de l'emplacement, même de l'emplacement du public par rapport à nous. Quelquefois, on est vraiment mon archer. Si le premier rang veut le prendre, ils peuvent le prendre. Et quelquefois, on a un peu de place, c'est plus confortable. Donc, en très peu de temps, on s'habitue. Hein, c'est quand même un métier aussi. Donc, mais il y a quelques salles difficiles, bien sûr, quand l'acoustique est plus sèche ou des choses comme ça, évidemment, beaucoup plus difficile de jouer. C'est plus agréable quand on est un peu aidé, un peu porté par une bonne acoustique.
De la valse de Maurice Ravel, c'est l'un des nombreux disques qui aura marqué les bientôt 10 années du mandat d'Emmanuel Krivine comme directeur musical de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, le chef français qui s'apprête à passer bientôt le flambeau à un jeune confrère espagnol, Gustavo Gimeno. Ce sera à la fin de cette saison, Emmanuel Krivine.
C'est agréable d'avoir construit quelque chose, et moi je les connais depuis 2001, donc ils m'ont confié ce poste en 2006. Mais je les connais depuis 2001, donc c'est une vieille relation. Mais là, ils vont changer, ils vont aller dans toute autre direction. Gimeno, je connais pas le gars qui me succède, mais on me dit du bien. Et il y a un moment où il faut changer, je pense.
Vous avez eu le temps de, entre les concerts, le travail de répétition avec cet orchestre, de mieux connaître aussi la ville, cette ville de Luxembourg, dont on demandait un peu au fond aussi au directeur de cette institution, qui lui vient de l'Allemagne et de l'Autriche, mais la façon dont il aurait à la définir et comment on y vit ici, et vous?
Ben moi, vous savez, j'habite en Suisse depuis 84. Donc, ça ressemble beaucoup. Ce sont des petits pays, et donc ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire, il y a un bon sens, évident. Il y a une certaine matérialité, c'est clair. Et en même temps, ces frontières avec Allemagne, Belgique... Bref, c'est un pays qui est au centre de tout, donc ça donne une certaine souplesse de comportement. Et leur destin a été très étrange, parce que c'était un pays qui était très pauvre, qui vient d'une grande pauvreté, c'était l'agriculture il y a très longtemps, et ça s'est transformé, et puis ils ont eu cette éclosion bancaire, donc c'est un mélange incroyable avec en même temps le vin de Moselle. Je connais beaucoup de viticulteurs, puis je suis très impliqué dans les histoires de vin, notamment d'ailleurs pour les climats de Bourgogne au patrimoine de l'UNESCO, et donc c'est un caractère très attachant. Il faut savoir qu'ici, il y a des cuivres, les harmonies, ce qu'on appelle les harmonies, les orchestres de cuivre sont géniaux. Quand vous allez vous balader sur la place d'armes l'été et que vous entendez les gens, les jeunes, des écoles et des fanfares jouer plein d'œuvres sur avec plein d'orchestres de cuivre, vous ne pouvez pas imaginer la qualité. Alors que vous êtes à 50, à 40 kilomètres de la France, où on ne peut pas dire qu'on soit le pays des cuivres. Quand ils jouent bien, mais ce n'est pas le monde du cuivre, comme en Amérique. Ou, bon. Et c'est très intéressant. Vous avez aussi quelque chose qui ressemble aussi à l'Allemagne et à la Suisse, c'est qu'on n'a pas honte de ces vieux. Et ici, tu vois plein de vieux dans la rue sans aucun problème, comme en Allemagne. Donc ça, c'est très sain, je trouve, de mélanger les générations.
Merci beaucoup, Emmanuel. Crévin, dernière question, puisqu'on vient vous voir à l'occasion de l'enregistrement d'un disque. C'est un exercice particulier d'enregistrer un disque où vous oubliez les micros, vous faites au fond de la même façon que lorsque vous répétez pour une soirée de concert. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu différent, de laisser une trace plutôt que le côté éphémère d'un concert?
Non, mais c'est complètement différent. Et c'est très difficile pour moi parce que... Mais je pense toujours à Chaplin et ses... Quand il tourne ses films, vous avez vu ces fameux extraits où on voit comment il tourne, où il recommence 70 fois le pas du gars qui pose un pied, 70 prises il fait. Bon, il faut que ce soit des tranches de vie. Parce qu'on nous dit c'est de la musique en boîte, c'est de la mort. C'est vrai, c'est mortifère. L'activité est mortifère. Parce que la musique est pas faite pour être discontinue, pour recommencer. Mais si tu en fais des tranches de vie, par exemple si tu fais 70 fois de mettre un pied devant à tel endroit... poser le pied droit comme si 70 fois, mais que les 70 fois dedans, il y en a 2-3 qui sont extrêmement vivantes, ben c'est du concentré de pose de pied. Donc ça peut être une succession de moments de vie. Le danger, c'est que ça se déshydrate dans l'action et qu'il y ait une lassitude et que tu n'aies plus de moments de vie. Mais je déteste faire ça. Alors, la vérité, c'est que faire un disque m'horripile. Mais on est dans une société où on doit le faire. Voilà.
Mais ça veut dire justement que vous aimez que ce soit un objet extrêmement fabriqué, c'est-à-dire avec beaucoup de prises, très monté, c'est-à-dire jouer vraiment jusqu'au bout la carte de l'enregistrement et du disque, de l'objet vraiment, oui, fabriqué. Ou est-ce que vous préférez plutôt quelque chose d'un peu moins, entre guillemets, parfait, mais des longues prises, des choses un peu plus naturelles d'une certaine façon?
Avec la Chambre Philharmonique, on fait toujours du live. Ouais. Pourquoi ? On n'a pas de budget. Il n'y a pas un rond. Donc, les Beethoven ont été faits sur 2 concerts et hop, après le lendemain, 3 heures, on rafistole et hop. Donc, c'est du live. Bon, eux, ils préfèrent. Moi, j'aime pas tellement. Mais, parce qu'il reste plein de scories. Mais là, ici, c'est pas du tout la même comment dire, situation. On peut pinailler autant qu'on veut. Alors évidemment, on a envie de faire un produit très beau. Et je vous répète, quand vous voyez les films de Chaplin, regardez bien les films de Charlot, il n'y a rien de mortifère. C'est extrêmement vivant et pourtant, tout est répété des dizaines de fois. Mais c'est effrayant, on se demande comment l'acteur s'en va pas. Et c'est infernal. Ce qu'il faut, c'est que ça... ne soit pas routinier à cause de la fatigue de l'enregistrement. Il faut que ça reste vivant.
Thank you.
Le matin d'un jour de fête, extrait d'Iberia de Claude Debussy, c'est Emmanuel Krivine qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, le chef français qui fera donc ses adieux dans quelques semaines comme directeur musical d'une formation dont il avait pris la tête en 2006. Plusieurs rendez-vous prévus, en juin notamment un programme avec Matthias Görn qui emmènera l'orchestre au Concerthaus de Vienne, et puis un grand concert le 3 juillet qui fêtera en même temps le jubilé, le 10e anniversaire de l'inauguration de la Philharmonie de Luxembourg. C'est Swet Bokorsa qui a enregistré et réalisé cette émission. Un grand merci à elle, à Philippe Mercher qui était avec nous pour le mixage et à Marie-Christine Ferdinand qui prépare nos équipées musicales. Toutes les infos, la réécoute et le podcast, c'est sur francemusique.fr. À bientôt.